On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
Jeudi le 4 novembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase, édition qui sera remplie de différents sujets. Grosse avant-midi dans la Ligue nationale de hockey avec la transaction de Jack Eichel. On va en parler avec François Gagnon, on va en parler avec Stéphane Leroux également qui sont avec nous. Les commentaires de l'entraîneur Dominique Ducharme, Gallagher et Wideman également qu'on va vous présenter. Des petits clips, ils viennent tout juste de s'adresser aux médias. Bref, beaucoup, beaucoup de sujets en marge du match de ce soir entre les Islanders et le Canadien. Mais comme à l'habitude, mon partenaire de lunch est là, fidèle au poste, Martin Lemay. Bonjour, mon ami.
Yes, sir, buddy. Oui, ce soir, jour de match. Espérons que le Canadien sera capable d'en coller une deuxième de suite. Bon, les Red Wings, c'est le fun, mais c'est parce qu'on ne peut pas se faire une division. Au lieu d'une division canadienne, une division canadien-Red Wings, ça ne marchera pas. Donc, il faut être capable de battre d'autres équipes. Et les Islanders, c'est un bon test. C'est peut-être une des bonnes équipes qu'on va affronter depuis le début de la saison, parce qu'on va se l'avouer. Non seulement le Canadien a une fiche pitoyable, mais on n'a pas battu des grands clubs, si on se dit la vérité, mon Yann. Donc, la victoire contre les Islanders ce soir serait plus qu'importante. Et pour que les Canadiens soient capables de coller une deuxième victoire de suite, ils vont avoir besoin d'un joueur électrisant.
Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
Ah, l'as-tu aimé, Lien? L'as-tu aimé, Lien?
T'as bien fait ça. À qui t'as choisi, là?
Département du Lien. Il faut que Nick Suzuki poursuive. Il faut qu'il nous montre que c'était pas juste, m'excuse l'expression, « a flash in the pan ». Il faut que Nick Suzuki demeure ton meilleur joueur. T'sais, les Canadiens ont été bons. Pourquoi? Parce que les meilleurs ont été les meilleurs. Suzuki Dvorak, au-dessus de 62-3%. Il y en a un, même un des deux, je pense qu'il était à 68% lors du dernier match. Donc, il faut que ces gars-là demeurent les meilleurs. Puis ça va être un défi dans le cercle des mises en jeu, entre autres, là, parce que les Islanders, ce n'est pas les Red Wings dans le cercle des mises en jeu. Cizikis, Pageau. Le moins bon, là, c'est Barzal. Fait que ça va être intéressant pour le Canadien ce soir. Un vrai test.
Oui, Jonathan Drouin, qui malheureusement ne participera pas au match. Romanov est réinséré dans la formation. Bref, là, pour connaître tous les détails, on écoute Dominique Ducharme qui s'est entretenu avec les médias à quelques instants et par la suite, François Gagnon s'installe.
Concernant Romanov, coach, on connaît son enthousiasme et tout ça. Là, je pense que ça, c'est connu. Est-ce que c'est encore vraiment mentalement pour lui ou c'est des notions techniques qu'il doit acquérir, d'après toi, pour être un gars de line-up régulier, top 6?
Technique, pour moi, non, c'est plus tactique ou lire les situations, réagir, puis avoir tout le temps ses... Parce qu'on a, t'sais, on a des choses qu'on veut faire puis qu'on veut faire tout le temps. Donc, on veut simplifier les choses pour... tous nos joueurs, on veut que les gars pensent le moins possible. Il faut être capable de le faire tout le temps. Il faut créer des automatiques là-dedans. C'est des choses qu'on travaille avec lui depuis l'année passée, donc on s'attend à ce que ça avance. Quand tu mets quelqu'un sur la glace, tu veux pas espérer. Tu veux savoir que ce travail-là, il va être fait. Tu veux pas... de ce côté-là, c'est des points qu'on parle, c'est des points qu'on pratique, c'est des points qu'on regarde avec lui, qu'on en parle, on monte vidéo, qui est capable de, qui peut faire très bien pendant un match. Puis après ça, dans l'autre match, ça peut être une présence bien faite, l'autre présence. Donc ça devient compliqué. Puis si on veut continuer sa progression, à un moment donné, quand tu arrives à un autre niveau, il faut être capable de ces apprentissages-là ou ces. Cette base-là que tu as, il faut être capable de la répéter tout le temps. Si tu veux passer au deuxième niveau, ben, tu sais, faut que cette base-là soit tout le temps faite. Donc, c'est là qu'on veut l'emmener. Donc, ça devient imprévisible des fois. Puis c'est des choses qu'il est capable de contrôler, puis qu'il comprend, puis qu'il voit. Il a une super attitude, il travaille, il a beaucoup d'énergie, il est très demandant pour lui-même. Peut-être c'est une raison aussi des fois pourquoi il essaie d'en faire trop et ces choses-là sont pas faites. Mais ça fait partie de l'apprentissage, mais tu sais, on veut que ça s'accélère.
On est rejoint immédiatement François Gagnon. François, t'as entendu Dominique Ducharme. Écoute, il s'est retenu. D'après moi, il ne veut plus être étiqueté au gars qui a l'expression « Quand tu mets un 10 à la glace, tu veux que ça soit un 10. Tu veux pas que ça soit un 2 ou un king. Tu veux que ça soit un 10. » Mais il a tout dit, sauf dire cette partie de carte-là, tu sais, sur Romanov.
Oui. Il a gardé aussi sa patience. Puis ça, c'est important parce que des joueurs comme Romanov, quand tu sais qu'il y a du talent, parce que le talent est évident, mais qu'il n'est pas en mesure de mettre en évidence ce talent-là, en fait, qui est pire que ça, qui nuit à ton équipe quand il est dans un match qui est ordinaire, puis il y en a eu plus des ordinaires que des bons. Disons que ça, là, ça pousse des coachs, des fois, à avoir des commentaires qui sont acerbes et puis des commentaires que tu peux regretter. Et ça nous rappelle, tout le monde, que Romanov est encore en développement et que la Ligue nationale n'est pas une ligue de développement et que si on le garde à Montréal pour le développer, c'est parce que la brigade défensive du Canadien a besoin de lui malgré tous ses problèmes. Alors, on doit composer avec ça, on doit vivre avec ça. C'est vrai pour nous autres, mais c'est vrai pour les coachs en arrière du banc et c'est vrai aussi pour ses coéquipiers. Je l'ai dit l'autre soir, quand tu vois un gars comme Jeff Petrie qui est en arrière du but, puis Romanov est juste là, là, puis il regarde n'importe où sauf là parce qu'il dit « Pourquoi que je donnerais la rondelle là? Pourquoi qu'il reste là? » Mais il ne peut pas le regarder puis dire « Envoie et vas-y, là, tu sais. » Ça se fait dans l'hockey, puis oui, mais pas dans la Ligue nationale. Mais les commentaires de Dominique Ducharme sont justement, je te dirais, remplis de sens et de bon sens en ce qui a trait à la gestion des ennuis de progression que connaît Romanov.
OK, François, si tu le veux bien, on va revenir un peu plus tard sur les sujets du Canadien et du match de ce soir, parce que là, la nouvelle du jour qui est sortie quand même très tôt ce matin, c'est cette grosse transaction entre les Sabres de Buffalo et les Golden Knights de Vegas. D'ailleurs, on va présenter un tableau aux gens là de la transaction, puis je sais que tu étais sur le point de presse, donc Jack Eichel s'en va du côté de Vegas avec un choix de troisième ronde en retour d'Alex Tuch. Finalement, on s'échange du joueur blessé. Du jeune Peyton Krebs et d'un choix protégé là, de première ronde en 2022 et un choix de deuxième ronde. T'as cité au point de presse des Golden Knights, donc je te laisse aller avec ça. Ton opinion là-dessus.
Écoute, ma première réaction, c'est de dire que les Golden Knights n'ont pas payé cher pour obtenir Jack Eichel. Je le sais, là. Il va se faire opérer. Vertèbre cervicale, c'est quelque chose. Il y a des risques. D'ailleurs, les Golden Knights respectent la décision de Jack Eichel et de son équipe. C'est-à-dire qu'on va opter, on va donner le feu vert parce que l'équipe a l'option de dire oui ou non. Les Sabres avaient dit non. Les Sabres voulaient un fusionnement de vertèbres, ce qui est plus courant. Là, on va y aller avec le remplacement des vertèbres par une vertèbre artificielle, ce qui s'est jamais fait dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des risques, mais Kelly McCrimmon le dit. Pat Brisson, qui est son agent, ses parents, Jack Eichel lui-même veulent ce qu'il y a de mieux pour lui permettre de revenir dans la Ligue nationale et d'être le joueur qu'il était et le joueur qu'il pourrait être une fois encore. Donc, Kelly McCrimmon, qui est le DG à Vegas, dit « Moi, je respecte sa décision. Il s'en va là. J'espère que l'opération va se dérouler le plus rapidement possible et qu'il sera de retour avec nous dans une période qui va osciller entre 3 et 5 mois. » Maintenant, et c'est ça la grande question, quel sera le Jack Eichel qui va endosser l'uniforme des Golden Knights? S'il est aussi bon que celui qui endossait l'uniforme des Sabres de Buffalo, ça va être un vol, cette transaction-là, pour Las Vegas. Je le sais qu'il coûte cher, Eichel. Il y a encore 50 contrats à 10 millions de dollars par année. Mais regardez ses statistiques. Il s'amène avec une équipe où il va être très bien entouré. Il va devenir le premier centre de cette organisation-là. Il va avoir des outils autour de lui ou des coéquipiers autour de lui qui vont lui permettre d'améliorer encore plus ses statistiques personnelles qui sont de 355 points en 375 matchs. Bon, ça, c'était à Buffalo. Quand tu sais que tu vas perdre, des fois, c'est plus facile de tricher et tout ça. Je comprends. Mais Jack Eichel, et ça, c'est Peter DeBoer, l'entraîneur-chef, qui vient de le dire dans la deuxième portion de la conférence de presse. Il a dit, dans la Ligue nationale, il y a quelques joueurs seulement qui ont le talent pour changer le cours d'une partie. Eichel fait, et de ce groupe-là. Les McDavid, les Austin Matthews, les joueurs là, les plus importants de la Ligue. Alors, ils sont très heureux du côté de Vegas d'obtenir Eichel et ils n'ont pas donné grand-chose. Alex Tuch, je l'adore. J'aimerais avoir Alex Tuch dans mon équipe si j'étais directeur général, mais c'est un complément à une bonne équipe. Peyton Krebs, un choix de première ronde, 17e sélection en 2019, un gars qui est certainement intéressant, qui est promis une belle carrière, mais ça demeure un joueur qui est en ascension. Et tu as parlé du choix de première ronde, c'est un choix protégé pour l'an prochain. Ça veut dire ça, que les Golden Knights, qui en ce moment sont décimés par les blessures, pas juste au niveau d'Eichel, mais tu as Mark Stone qui n'est pas là, tu as Patrick Betty qui n'est pas là, tu as William Carson qui n'est pas là, à la ligne bleue, tu as qui? Tu as White Cloud qui n'est pas là, puis tu as Nolan Patrick qui est encore blessé, puis je pense que j'en oublie un ou deux là. Alors, si les Golden Knights ne font pas les séries, qu'ils participent à la loterie, au tirage et qu'ils se retrouvent dans le top 10 au prochain repêchage, ils vont garder leur choix et ça va reporter d'un an la sélection des Sabres de Buffalo, mais à ce moment-là, le choix ne sera pas protégé et alors ça pourrait être de n'importe où, de 1 à 32.
François, tu disais que c'était pas beaucoup plus payé que celle de Pacioretty. Fait que j'étais en train de chercher celle de Pacioretty qui était Tatar. Dans le fond, il y a un premier choix de plus, parce que c'est un deuxième choix qu'on a eu dans transaction. Ouais, il y avait Suzuki, fait que là, il y a Krebs, il y a Tatar, il y a Tuch, même si on aime mieux Tuch que Tatar. Et il y a, dans le fond, il y a un premier choix de plus dans cette transaction-là. Mais il y a une différence entre Pacioretty, comme tu disais, et Jack Eichel. Et je présume que si on est allé de l'avant du côté de Vegas et que d'autres équipes étaient dans le derby, je ne sais pas si tu croyais à la rumeur de Calgary avec Matthew Tkachuk, c'est parce qu'il y a des médecins sûrement quelque part qui se sont prononcés en voyant le dossier médical, parce que Pat Brisson a rendu disponible ce dossier médical-là aux équipes qui étaient intéressées. Donc on devait avoir une certitude dans l'incertitude de la suite des choses pour Eichel.
Ben exactement. L'important, c'est cette, comment je dis, cette gymnastique-là. Est-ce que Kelly McCrimmon et les Golden Knights sont certains? Ils ne peuvent pas être certains, mais sont convaincus que cette opération-là va régler le problème de Jack Eichel et qu'à court terme ou à moyen terme, il va être en mesure de revenir au jeu et qu'il va être en mesure de reprendre sa place. Puis McCrimmon l'a dit, c'est un beau défi pour, d'abord, un gros défi dans le cadre de l'opération, et après ça, ça va être un beau défi pour Eichel de montrer et de prouver, parce qu'il a juste 25 ans, qu'il est en mesure d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour encore un autre 5, peut-être un 10 ans, selon, évidemment, qu'est-ce qu'il va y arriver. Mais ça, c'est la même incertitude. Prenons tous les joueurs du Canadien ce soir. Si Suzuki se fait frapper sa tête comme Jonathan Drouin l'autre soir, puis qu'il est moins chanceux, puis qu'il perd un œil, bien, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Les Golden Knights ont regardé le portrait. Les médecins des Golden Knights ont étudié le dossier médical qui leur a été présenté par l'équipe de Pat Brisson. Puis, la logique parle, là. La logique, c'est de dire... Je pense pas que le petit gars, là, il veut prendre une chance sur sa santé, qui pourrait subir une opération qui va non seulement hypothéquer sa carrière, mais qui pourrait hypothéquer sa vie au quotidien. Alors, l'attitude pour moi des Golden Knights est de plus grande, je te dirais, ouverture d'esprit que celle des Sabres de Buffalo qui s'opposaient complètement à cette opération-là. Et puis, on voit les résultats. Tu sais, tu fais bien de comparer les transactions. Là. Oui, il y a un premier choix de plus, mais est-ce que Krebs va être meilleur que Suzuki? On ne le sait pas. Tuch, je pense, va apporter davantage, peut-être pas au niveau des points, mais au niveau d'un joueur d'équipe que Tatar l'a fait. D'ailleurs, Tatar n'était pas dans les séries, puis pas juste à Vegas, mais à Montréal l'an passé, puis on l'a laissé partir. Et il restera ce premier choix-là. Mais il en demeure pas moins que... Écoute, là, je me dis, si je suis le directeur général, là, à midi, Kelly McCrimmon, ben, il y a un décalage horaire, là, mais quand il va aller prendre son lunch à midi, il va dire, ouais, ben finalement, je pense que j'ai fait un maudit bon coup. Pour l'instant, en tout cas, c'est ma conclusion initiale.
Ouais.
Tout à fait. Et François, il y a plusieurs internautes, tant sur Facebook, rds.ca, partout, qui posent la question. Tu sais, je me doute un peu de ta réponse, là, mais plusieurs s'interrogent sur le fait, est-ce que le Canadien aurait pu faire une offre similaire? Est-ce que le Canadien aurait pu être dans la course pour Jack Eichel? Est-ce qu'ils l'ont été d'abord au début? Et c'est quoi les petits échos que tu as eus là-dessus, là?
Bien, c'est évident que le Canadien s'est intéressé à la situation. Quand un joueur comme Jack Eichel devient disponible, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de regarder, surtout que le Canadien, on va se le dire, on aime beaucoup Nick Suzuki, là, puis je comprends le joueur électrisant, le choix du joueur électrisant de Martin tantôt en ouverture d'émission. Mais disons que Jack Eichel est plus sur le 220 quand ça va bien que Nick Suzuki. Peut-être que ça va changer à l'avenir, on verra ce que ça donnera. Mais on ne parle pas ici de la même catégorie de joueurs. Alors, Jack Eichel arrive chez le Canadien. C'est lui le premier centre du Canadien, puis Suzuki va à un endroit qui lui serait plus confortable comme deuxième centre. C'est ce qui va arriver à Chandler Stephenson du côté de Vegas quand Eichel sera en mesure de jouer. Bon, est-ce que le Canadien devait regarder? Oui, je suis convaincu que ça a été fait. Est-ce que le Canadien a fait des offres au Sabres de Buffalo? Ça, je ne peux pas te le dire. Je n'ai pas la conviction de ça. Et après ça, ben là, il faut que tu entres dans la gymnastique du plafond salarial. Le plafond, là, les Golden Knights, le plafond est pas juste à côté, là. Il défonce en ce moment à cause du nombre de blessés. Et c'est la même situation que le Canadien a vécu l'an dernier. C'est la même situation qu'il vit présentement avec Weber qui donne une marge de manœuvre parce qu'il est sur la liste des blessés à long terme. Donc, ça veut dire que si le Canadien arrive au plafond, ben, il y aura une marge de manœuvre équivalente au salaire annuel de Weber. On l'a vu avec Kucherov l'an passé à Tampa Bay. Donc, le plafond est une réalité avec les clubs doivent apprendre à composer. Il ne doit pas te faire peur, le plafond. Tu dois être en mesure de jouer avec lui puis de trouver une manière de gagner, ce que Julien Brisebois a fait avec Tampa Bay. Alors, est-ce que le Canadien a joué là-dedans? Sans doute. Et quand une transaction comme celle-là arrive, si je suis fan des Flames de Calgary puis je regarde ce que Buffalo a donné, je me dis « Hey, mon club avait ça à donner. » Si je suis un fan du Canadien, je me dis la même chose. Et si on est des fans de toutes les autres équipes, on se dit la même chose. Puis à Buffalo, on se dit « Hey, il me semble qu'on aurait pu avoir plus pour Eichel. » Alors, c'est normal d'avoir ce type de question-là. Oui.
Je te pose la question, parce que, regarde, on va prendre le repêchage de 2019, là. Peter Krebs a été repêché 17e, deux rangs derrière Cole Caulfield. Donc, Canadien, exact. Là, c'est Cole Caulfield, mais un allié. Brendan Gallagher, mettons, un premier puis un deuxième choix. L'aurais-tu fait?
Caulfield, Brendan Gallagher, un choix protégé de première ronde. Moi, je l'aurais fait en raison de la situation du Canadien au centre. Mais garde.
Moi aussi.
On peut débattre longtemps. Mais Gallagher, c'est le prochain capitaine.
Non, je suis avec toi.
Gallagher, c'est peut-être le prochain capitaine du Canadien. Oh oui, mais on l'analyse. Il y a peut-être du monde à la maison, Martin, qui dit « Êtes-vous fou, Lemay puis Gagnon? » Je vais vous dire pourquoi, moi, je considère que c'est pas fou. Caulfield, il y a un talent certain. Est-ce que ça va se traduire dans la Ligue nationale? On verra. Tu sais, le monde voit en lui un marqueur de 40 buts. Je trouve que c'est exagéré peut-être. Si ça devient un bon marqueur de 20-25 buts, c'est déjà quelque chose, là. Donc, c'est une valeur. Krebs est un joueur plus, je te dirais, moins unidimensionnel, un gars qui est plus complet. Est-ce qu'il va se développer comme un Anthony Cirelli, comme un Philippe Dano? On verra. Mais, tu sais, encore là, on fait des projections. Gallagher, je suis probablement un des plus grands fans de Gallagher dans la communauté journalistique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, son contrat va coûter cher. Alors, c'est la raison pour laquelle, si tu me donnes l'occasion d'avoir un centre numéro un vrai de vrai, là, le premier depuis Vincent Danfous, je te dis oui, je suis prêt à payer cher à court terme parce qu'à long terme, ça va me donner quelque chose.
C'est un joueur générationnel. C'est un joueur... je comprends là, toute la boîte qui existe autour de lui, son attitude, son contrat, tout ça, là, mais... d'après moi, il y a McDavid, Drysdale, puis lui, là, c'est même pour moi au-dessus dans le terme de qu'est-ce qui peut changer dans un match au-dessus de Austin Matthews. Donc, c'est un joueur générationnel.
Oui, je mettrais Austin Matthews dans l'équation, mais c'est un gars qui est beaucoup plus, mettons, que Patrick Laine. C'est un gars qui a de l'envergure. Oui. Puis, il a trouvé ça plate de jouer à Buffalo. Il jouait au sein d'une équipe perdante. Il l'a dit souvent, je suis tanné de perdre, je suis tanné de ne pas être capable de mener mon équipe à la victoire. Hey, ça fait 10 ans de suite que les Sabres de Buffalo sont pas allés en séries éliminatoires. Imaginez-vous, là, à Montréal, on les a ratés, quoi, 4 ans de suite, puis comme partisans, puis comme journalistes encore plus, on était prêts à déchirer nos chemises, avec raison. Imaginez-vous 10 ans à Buffalo. Alors, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a un problème d'attitude? Il y en a eu un. Là, il se retrouve dans des circonstances où il va se retrouver dans des circonstances sensationnel quand tu regardes les joueurs qui vont l'entourer là-bas, bien, ce sera à lui à prouver que la vilaine attitude qu'il avait était associée au milieu où il se retrouvait. Et là, je ne parle pas de Buffalo, mais je parle de milieu défavorisé au niveau hockey et que dans un contexte meilleur, dans une ville meilleure, parce que on va se le dire, là, on ne parlera pas trop fort pour que le monde de Buffalo entende, là, mais tu sais, Martin
Biron. Juste Martin Biron qui nous écoute.
J'aimerais mieux, Martin, aller vivre à Vegas qu'aller vivre à Buffalo. C'est tout ce que je dis là-dessus. Anyway, les circonstances vont être pas mal plus favorables pour Eichel là-bas qu'elles étaient à Buffalo.
Je suis pas mal d'accord avec toi. Hey, François, on parle-tu un peu du Canadien? Parce qu'il y a un match ce soir contre les Islanders, qui sont une équipe qui sont, on pourrait dire, sans domicile fixe, là, pas encore quelques matchs. C'est un 8e match de suite sur la route pour les Islanders. Mais on va parler du Canadien un petit peu avant. Bon, là, on a eu la confirmation que Jonathan Drouin ne sera pas dans l'alignement. Romanov revient. Et le Canadien pourrait, là, a le potentiel ce soir d'aligner une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison.
C'est ça le défi. Le défi, c'est de bâtir sur ce que le Canadien a fait de bon contre Détroit. Je suis d'accord avec vous deux là, dans l'ouverture d'émission. Ils n'ont pas affronté un grand club mardi soir, mais le Canadien a bien joué. En jouant comme il a fait mardi, le Canadien pourrait surprendre une meilleure équipe et les Islanders sont une meilleure équipe. Tu sais, Martin, tantôt, tu as dit que le Canadien n'a pas battu des gros clubs. C'est vrai. Mais il y a pire que ça, c'est qu'il a perdu contre des mauvaises équipes. Et c'est là où il a gaspillé des points au classement. Je pense pas que le Canadien va être dans la course pour une place en série, malgré tout, mais on veut voir un club qui se bat chaque soir. On veut voir un club qui va rendre la saison intéressante. Ce club-là était inexistant ou à peu près dans les 10 premiers matchs. Il s'est présenté mardi contre Détroit et j'espère revoir cette équipe-là ce soir contre les Islanders. Mais c'est un beau défi. J'ai hâte de voir là, les permutations de joueurs. Brooks va avoir plus de glace, évidemment, parce qu'il va avoir un rôle à combler au centre. On parle même de le voir en avantage numérique. Tant mieux. Romanov, comment il va réagir? Ça, pour moi, là, ce soir, du haut de la galerie de presse, ça va être ça. Est-ce que chaque fois qu'il va embarquer sur la glace, il va ressembler au Tasmanian Devil? Tu sais, d'un petit comique, là, il va tourner sur la glace, puis il va être comme une toupie ou un tourbillon, puis là, tu vas dire, ben, coudon, qu'est-ce qu'il fait, là? Alors, c'est malheureusement ça que Romanov a fait trop souvent. Et c'est ce que Dominique Ducharme a dit. Là, on veut le calmer un peu. On veut qu'il trouve une manière de bien comprendre ce qu'il doit faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il ne le réalise pas.
Oui, non, je ne sais pas si les gens là, sont au courant. J'essaie de trouver c'est qui va être sorti de la formation parce qu'on a vu et Nikou et Wyman participer à l'avantage numérique pendant la pratique. Donc,
c'est
j'essaie
Nikou.
De trouver c'était lequel
c'est
des deux. C'est Nikou? Nikou qui va être sorti pour réintégrer Romanov. OK. Il y a plein de commentaires qui sont écrits sur notre page On Jase. Entre autres, il y a Elisabeth qui dit qu'il t'écouterait pendant des heures tellement qu'elle te trouve intéressant. Bon, là, Elisabeth, là, on va vous donner
c'est
son
gentil.
Numéro de téléphone là, parce que là, elle m'a emmené. Il y a plein de gens également qui sont d'accord avec tes commentaires. François, laisse les gens aller au gratuit puis on revient. Non, c'est plein de bons commentaires. C'est ce qu'il faut retenir. Plein de bons commentaires à l'endroit de ce que tu dis parce qu'elle le dit très bien que tes commentaires sont pertinents et posés. Donc, elle pourrait t'écouter pendant des heures. Marc, il dit c'est un bon débat quand même. Gallagher et Caulfield avec un premier et un deuxième choix. Il faut y penser quand même à ne pas prendre à la légère. Absolument. Ça, c'est des conversations que les gens peuvent avoir autour de la machine à café. Tu sais, il n'y a aucune unanimité là-dedans. Puis il n'y a personne qui a la vérité de la palette. Ça pas, c'est pas arrivé. Tu sais. D'ailleurs, ce matin, je mettais qui a eu raison dans cette transaction-là. Je mettais ça sur Twitter ce matin. Il y a question, quelqu'un qui me répond. Il dit la question devrait être qui aura le meilleur. Tu sais, si vous voulez poser une question vous-même sur Twitter, vous prenez votre compte Twitter, vous écrivez la question que vous voulez. Moi, la question que j'ai écrite, c'est là, le directeur général, lui, il faut qu'il prenne sa décision là. pour lui, c'est un bon deal, c'est un meilleur deal pour Buffalo, c'est un meilleur deal pour Vegas. C'est excessivement partagé, plus de 1000 répondants. Vegas à 50 %, 31 % pour Buffalo et 19 % transaction équitable. Donc, je pense que c'est partagé dans le diagnostic sur cette transaction-là. François, on va revenir sur le match. Les Islanders, j'ai parlé avec Anthony Beauvillier cette semaine. Au moins, ils ont eu deux séjours à domicile parce qu'il faut que les gens comprennent, leur arena n'est pas prête. Donc, ils jouent sur la route encore jusqu'au 20 novembre. Mais dans le calendrier, on a prévu des moments où ils pouvaient revenir à la maison faire du lavage.
Mais ça, c'est le bonheur d'évoluer dans le marché de New York, dans le marché métropolitain. Parce que ce qui est vrai pour les Islanders, l'est pour les Rangers, l'est pour les Devils. Quand tu t'en vas jouer à Philadelphie, t'es à la maison. Tu sais, je veux dire, ils s'en vont là en train, puis ils reviennent. Ça prend 45 minutes, une heure, puis t'es revenu, là, tu sais. Il y a des soirs, quand on part du Centre Bell, puis il y a de la construction, ça prend plus de temps que ça aux partisans pour rentrer à la maison. On le voit, là, c'est une réalité différente. La division métropolitaine porte très bien son nom, et puis c'est un gros, gros avantage. Mais c'est moins pire cette année, je te dirais, pour les Islanders, que par les années passées, là, quand ils étaient un petit peu partout, quand ils étaient à Brooklyn, puis qu'ils revenaient après ça au Nassau Coliseum parce qu'on l'avait rénové. Ça, ils étaient vraiment sans domicile fixe. Là, ils sont juste sortis à cause de la fin des rénovations. C'est moins pire. Et l'avantage, c'est que s'ils sont capables de traverser cette séquence-là, là, ils vont avoir une autre séquence. Le nombre de matchs à domicile va devenir intéressant. Et l'an passé, puis là, je m'avance un peu, puis j'ai pas mes statistiques avec moi, mais je pense pas me tromper si je dis que les Islanders ont eu une, sinon la meilleure fiche de la Ligue nationale à domicile. Alors, ce qu'ils payent là, ils vont le récolter, peut-être avec des dividendes, dans quelques semaines, dans quelques mois.
Plusieurs salutations sur Facebook. David de Paris qui commente également. Michel Vaudry qui parle beaucoup de Romanov. Il y a Hugo, un habitué sur Facebook également. Kevin Garand, je vais les saluer en rafale. Là, Jean Malo qui dit « Est-ce que le Canadien aurait pu égaler l'offre d'échange? » On en a parlé un petit peu tantôt. Sébastien Thériault également qui parle de Romanov. Salutations à Max Dumais. Francis Jean, il y en a beaucoup comme ça qui commentent. Puis il y a Patrice aussi qui te demande de parler, François, des Islanders, ton appréciation de cette équipe-là qui connaît quand même pas un mauvais début de saison, là, mais tu sais, qui se débrouille quand même. Il va avoir ton opinion sur cette formation-là.
Je ne sais pas si notre ami me suit sur Twitter, mais il y a deux clubs. Tu sais, l'an passé, là, mon état des forces que je faisais à toutes les semaines, ce que je ne ferai pas cette année, je vais y aller plus ponctuellement pendant la saison. Il y a deux clubs que j'étais jamais capable, à qui je donnais jamais assez de crédit, les Islanders et les Flames de Calgary. Alors, peut-être que c'est ça qui veut vers où il veut m'amener. Je continue à être surpris par les Islanders et agréablement surpris. Je regarde ce club-là puis je me dis, tu sais, il me semble, mais c'est ça. C'est un club de hockey dirigé par un des meilleurs coachs de la Ligue nationale. Peut-être le meilleur en ce moment avec le départ de Joel Quenneville en Floride. Au niveau stratégique, au niveau gestion de joueurs, on a vu ce qu'il a fait avec les Capitals. Il s'est rendu à la Coupe Stanley. Et on a vu ce qu'il a fait avec un club quand il est arrivé à Long Island, que plusieurs, là, pas juste moi, mettaient dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Et après le départ de Tavares, il s'est servi de ça pour faire un club, bâtir, solidifier son équipe. Alors, c'est une formation qui me surprend. Bon, le début de saison, peut-être que c'est pas à la hauteur de ce que les Hurricanes de la Caroline font présentement, mais si je prends ces deux équipes-là, je ne suis pas capable de dire que les Islanders sont vraiment beaucoup moins forts que les Canes. Les Canes se sont renforcés devant le filet avec Frédéric Anderson, ça c'est certain. Ils ont une bonne attaque, ils ont une défensive solide, ils ont un pas pire coach qui est en train de démontrer qu'il est capable de garder le contrôle de cette formation-là. Mais les Islanders, à un moment donné, vont continuer à prendre leur envol. Je ne suis pas le plus grand fan de Matthew Barzal, et c'est ça qui est drôle. C'est qu'au sein de cette équipe-là qui forme un tout, tu as un gars qui est un peu trop, à mon goût, à moi, individualiste, puis qui va des fois faire son show parce qu'il pense que c'est comme ça que ça va gagner. Et Barry Trotz est capable de maintenir ça. C'est un autre exemple des grandes qualités de coach de ce gars-là.
C'est drôle parce qu'après, on va avoir, au retour des gens, on va avoir Stéphane Leroux. Et lui, est un grand fan de Barzal. Fait que c'est très drôle que tu dis que tu n'es pas un grand fan. C'est complètement à l'opposé de l'un de l'autre. Puis je comprends ta nuance.
Laisse-moi juste amener une précision pour pas que Stéphane m'écrase trop, parce que je ne serai pas là pour me défendre. Je suis un fan du talent, du potentiel de Barzal, mais je ne suis pas un grand fan de la manière dont il déploie ce talent-là sur la glace.
Mais on va ramener les gens de la télé. Mais on va en parler avec Stéphane Tang. Le joueur explosif. Puis si tu veux, quand tu peux amener Stéphane Leroux, on va s'amuser avec ça. Le joueur explosif, parce que c'est un patineur exceptionnel, Matthew Barzal, qui souvent prenait des chances, trichait, etc. Ce joueur-là a été ramené par Barry Trotz. Il prend beaucoup moins de chances et il rentre dans les rangs. Donc, il garde quand même son explosion, son coup de patin, tout en trichant moins. C'est pour ça que ses points ont beaucoup souffert. Alors, à la gauche, mesdames et messieurs de votre téléviseur, François Gagnon, fan, mais en demi-teinte de Matthew Barzal. Et à votre droite, en direct de Québec, là où il sera pour le match des remparts ce soir, Stéphane Leroux, fan, il l'a même pris dans son pot, de Matthew Barzal.
T'es ça comme mêlé, gauche-droite.
Mais on n'est pas obligé d'être d'accord toujours, François, puis c'est correct, mais moi, j'ai toujours aimé Matthew Barzal. C'est vrai qu'avec Barry Trotz, ses statistiques offensives ont régressé un petit peu parce qu'on joue d'une autre façon, mais moi, c'est un joueur qui, dans les rangs juniors, j'avais adoré, puis tout ça, puis c'est toujours un de mes favoris. Moi, j'aime ça, les fabricants de jeux. Surtout quand tu fais un pool de hockey, tu sais, quand tu te fies seulement à un marqueur pour faire des points dans un pool, quand le marqueur tombe en léthargie, ça va pas bien. Mais tu sais, des gars comme Marner, des gars comme Barzal, tu sais, qui sont d'abord et avant tout des fabricants de jeux, des gars comme Peyton Krebs, puisqu'il est dans l'actualité aujourd'hui, des gars qui ramassent plus de passes que de buts. Moi, j'ai toujours bien aimé ça. Puis Matthew Barzal, moi, je l'aime beaucoup. J'ai de la misère à passer à côté quand il est disponible, quand je fais un pot.
Ouais, on va être d'accord. Hey,
non, pour un pool de hockey, c'est un gars intéressant, mais tu sais, si tu me donnes le choix entre Mitchell Marner et Matthew Barzal, je vais sauter à pieds joints sur Marner en essayant de ne pas y faire mal parce que je veux qu'il me donne des points, là, tu sais. Mais je comprends. Puis c'est un joueur électrisant, c'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur qui, quand il est sur la patinoire, va souvent donner un beau spectacle. Et ça fait partie aussi des considérations hockey. Pas juste au niveau des statistiques, mais au niveau du divertissement.
Ben voilà, la petite échange étant maintenant complétée, on va libérer notre ami François pour qu'il puisse aller prendre une petite bouchée. Un gros merci, François, très apprécié. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Plaisir. On se revoit ce soir. Salut. Bon match, tout le monde.
Bye. Salut,
François.
Stéphane, si tu le permets, Steph, juste avant qu'on entame les sujets de discussion, on a deux extraits à faire entendre aux gens, des commentaires de Brandon Gallagher et Wideman également. On écoute ça, puis par la suite, on parle un peu du match de ce soir, puis on revient sur la transaction Eichel.
He's a special player and a special person. I think, whenever we go through tough times, he's one of the guys that always gets us out of it. He likes to step up in big moments, and I've talked about this before, but he enjoys it. He enjoys that opportunity, and he's a guy that when you look around the room, he gives other guys a lot of confidence. So he's a good player. That said, we don't put too much on him. Like anyone, we just expect him to do his thing, and results usually happen. So for Susie to continue to mature, continue to grow into that leadership role that I think he is, it's going to be good for this team and good for this organization.
I think the staff here is pretty straightforward. I mean, you can't play offense if you don't kill the play in your own zone. So if we're in our own zone trying to defend the whole game, we're not going to create any offense. So killing the play early is how we're going to start the offense. So that's definitely a focus to try to get in there and separate the guy from the puck, whether it's, being physical or having a good stick and a good gap. And then just letting your natural abilities go from there.
Voilà, ben oui, c'est ça la base. Quand tu n'as pas la rondelle, il faut que tu la récupères avant de vouloir aller en attaque. C'est merci, Chris. On n'y avait pas pensé. Stéphane, on va aller, avant de parler de la partie du Canadien, avant de parler de la partie du Canadien de ce soir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, les Islanders. Puis ça va être un bon défi pour le Canadien. Je veux t'entendre, toi aussi, sur cette transaction de Jack Eichel, qui est pour les gens qui ne savent pas, qui s'en va en direction de Vegas, en retour de Peyton Krebs, Alex Tuck, un premier et un deuxième choix. Et Buffalo donne un troisième choix. Il y a comme un échange de deux pour un trois là, dans cette transaction-là.
Bon, on a donné trois choix de première ronde. Fondamentalement, c'est comme ça qu'il faut la lire. Là. Le premier choix à venir, plus Krebs et Tuck, qui avaient été des choix de première ronde aussi. Dans le cas de Krebs, je ne sais pas si les gens le savent, mais en 2016, ça a été le premier choix au total du repêchage de la Ligue junior de l'Ouest. Donc, c'est un peu le Alexis Lafrenière là, de la Ligue de l'Ouest à ce moment-là. Dans l'Ouest, on les repêche au niveau bantam. Alors, Krebs avait été le premier au total repêché par Kootenay. C'est un gars qui est identifié comme une future vedette de la Ligue nationale depuis longtemps dans la Ligue junior de l'Ouest. Il a été retranché au camp d'équipe Canada junior de 2020 et ça n'avait pas fait son affaire. C'est parce qu'il faisait partie de ces joueurs qui vont au camp junior, Martin et Yannick, qui se font retrancher pour la première fois de leur vie. Ils se font dire qu'ils sont pas assez bons pour jouer dans une équipe de hockey. Mais il est revenu plus fort l'an dernier. Et il a eu 8 points dans le tournoi. Il a été un des meilleurs de l'équipe canadienne l'an passé là, avec Dylan Cousins notamment. D'ailleurs, Cousins et Krebs, là, c'était le one-two punch un peu de l'équipe canadienne, deux gars de la Ligue de l'Ouest. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur-là. Je viens d'en parler juste avant. Je pense que Krebs va avoir la chance probablement plus de se développer à Buffalo qu'à Vegas avec tout l'offensive qu'on a là-bas. Ceci étant dit, on dit souvent que dans une transaction, l'équipe qui gagne la transaction, c'est l'équipe qui ramasse le meilleur joueur. C'est sûr que le meilleur joueur, c'est Eichel. Est-ce qu'il va être le meilleur joueur pendant longtemps en raison de sa blessure et tout ça? C'est ça le gros point d'interrogation. Mais moi, je salue le courage de Kelly McCrimmon de faire ce genre de transaction-là, puis d'embarquer, de ne pas avoir peur là, de brasser, même si son équipe fait partie des bonnes équipes de la Ligue, n'a pas peur d'appliquer des changements, puis il l'a fait plusieurs fois. On l'a vu quand il est allé chercher Pacioretty. Là, on le fait encore avec... on l'a vu avec Mark Stone. Là, on le fait encore avec Eichel. Tu sais, ce genre de DG-là, puis je connais un peu Kelly McCrimmon. Il a été longtemps avec les Wheat Kings de Brandon dans la Ligue junior de l'Ouest, puis il a fait partie des dirigeants de Hockey Canada. C'est ce genre de bonhomme-là. Regarde, c'est le fun d'encourager Vegas. C'est une équipe qui est premièrement plaisante à voir jouer dans une ambiance extraordinaire pour être allé voir des matchs là-bas avant la pandémie. Puis là, ben, tu rentres une vedette comme Eichel. Si ce gars-là redevient le joueur qu'il est censé être, tu sais, Eichel, c'était le McDavid des États-Unis. Il ne faut pas oublier ça. Là. Alors, tu vas chercher le McDavid numéro 2 de la Ligue. Là. Tu le disais tantôt, Martin, tes comparaisons avec les meilleurs joueurs, là. Si ce gars-là redevient ce qu'il est censé être, ça va être encore plus le fun d'aller voir des matchs de hockey à Las Vegas, c'est certain.
C'est sûr que Eichel doit être pas mal plus de bonne humeur un matin qu'Alex Tuck, lui, qui s'en va à Buffalo dans une organisation. On pense toujours du côté d'Eichel, mais si on pense du côté de l'autre, Tuck, là, lui, un matin, je ne suis pas sûr qu'il passe une belle journée. Mais t'as raison, Stéphane, quand tu parles de... Non, vas-y, tu voulais ajouter, vas-y.
Oui, je voulais ajouter, l'important, là, puis je ne sais pas si les gens ont remarqué, là, dans le point de Stéphane, là, c'est Krebs et Cousins ont eu du succès. Cousins est à Buffalo. Là,
ensemble.
Buffalo, là, peut-être qu'ailleurs, on a offert plus, mais le fait de réunir Cousins et Krebs, sachant qu'il y a peut-être un petit quelque chose là, deux jeunes joueurs qui pourraient grandir ensemble, c'est un point important dans ce que Stéphane amène. Là, mais il me semble que Calgary, Mathieu... Oui, mais c'est parce que peut-être qu'il voulait avoir le jeune Krebs. Et c'est peut-être ça qui était l'élément important dans les programmes, pour Adams.
Dans les programmes de Hockey Canada, Krebs et Cousins ont toujours été pas mal ensemble, puis l'an passé, c'était le cas. Est-ce que ça peut être une combinaison qui va refonctionner à nouveau? On verra. Tu sais, Krebs n'a pas marqué encore dans la Ligue nationale. Il est à ses premiers balbutiements. Mais écoute, quand tu as un joueur là, qui ne veut plus jouer chez toi aussi, puis tantôt, vous disiez, tu sais, Eichel est tanné de perdre, puis tout ça, puis... Mais, tu sais, lui aussi, il y a une part, je pense, de responsabilité là-dedans, Eichel, parce que tu regardes les joueurs qui sont repêchés, qu'on dit des joueurs générationnels. sais, quand Mario Lemieux est arrivé à Pittsburgh, c'était une concession moribonde, puis il a réussi à la faire gagner. Tu regardes Vincent Lecavalier avec Tampa, a réussi à faire gagner le Lightning une couple d'années après. Tu regardes Patrick Kane, Jonathan Taves avec Chicago, ça allait nulle part, les Blackhawks. Ils ont réussi à faire gagner ça, puis les exemples se poursuivent. Crosby l'a fait avec Pittsburgh aussi par après. Puis, tu sais, Eichel, là, il y a... J'aime pas ça mettre le mot « il a échoué à Buffalo », là. C'est peut-être beaucoup d'y en mettre beaucoup sur les épaules parce que c'est pas que lui. Mais dans le fond, le McDavid des États-Unis a pas réussi avec les Sabres. Fait que là, il se fait échanger, il crée à tout le monde qu'il est pas heureux, puis tout ça, il veut changer de place. Mais là, maintenant, c'est à toi de le montrer là, que t'es le joueur que tu vas être.
C'est
ça, exactement. Faut qu'il livre.
Oui, exactement. Steph, on parle-tu un peu du match de ce soir? Je sais que tu as plein d'autres sujets, là, Caulfield, entre autres, et tout ça, mais on va te lancer un peu sur le match de ce soir. Martin disait que les Islanders, c'est une équipe qu'il aime bien. Moi aussi, un peu à cause d'Anthony Beauvillier, évidemment. Là, les gens connaissent mon petit lien avec lui.
La filière de Sorel.
Ben oui. Mais c'est une équipe que j'aime voir jouer. Puis c'est vrai que les Islanders, des fois, tu sais, ils étaient un peu méconnus, mais là, depuis quelques années, en tout cas, depuis l'arrivée de Barry Trotz, c'est une équipe qui est le fun à voir. En tout cas, ça m'excite plus un match Canadien-Islanders qu'un match Canadien-Red Wings, ça, c'est clair.
Oui, mais ça risque d'être plus difficile contre les Islanders que contre les Red Wings aussi. C'est sûr que le Canadien fasse ce soir.
Ça, c'est sûr.
C'est d'en coller une deuxième, là, de construire. Parce que là, t'as été capable de coller 5 défaites puis 2 défaites, mais t'as pas été capable de coller 2 victoires. Puis si tu veux éventuellement, tu sais, la première étape pour le Canadien, là, c'est d'essayer de revenir à 500. Ça va prendre combien de temps? Là, tu t'es creusé un trou solide en commençant la saison comme tu l'as fait. Là, t'es 3-8. Ça va prendre combien de temps? Tu sais, chaque fois que tu gagnes 2 matchs, t'en perds un. 2 matchs, t'en perds un. Ça va prendre encore 15 matchs avant de revenir à 500. Puis ça, c'est si t'en gagnes 2, t'en perds un. Mais si t'en gagnes un, t'en perds 2. T'en gagnes un, t'en perds un. T'en gagnes un, t'en perds 2. Tu n'y arriveras pas. Alors là, l'étape, c'est de dire, bien là, ce soir, c'est les Islanders, samedi, c'est Vegas. C'est 2 bons clients, ça, là. Alors, il faut que tu sois capable de, tu sais, Dominique Guichard en a parlé hier, là, de faire le blueprint, l'expression anglaise, la copie carbone de ce que tu as fait mardi. Sauf que les Détroit mardi, je pense qu'ils sont venus pour se faire battre aussi, sans rien enlever aux Canadiens, là, je veux dire, avec Bertuzzi qui n'était pas là, avec Larkin qui n'était pas là. Ils ont parti le match tout croche, puis ça a pris 10 minutes, puis c'était 2-0. Je suis pas sûr qu'avec les Islanders, ça va être le même constat ce soir, à cause qu'il y a des gars pas mal différents dans cette équipe-là, puis ils sont pas dirigés de la même façon non plus. Ce soir, c'est un bon test pour le Canadien. Ce soir, là, tu sais, si le Canadien sort du match ce soir, puis c'est une défaite de 5-1, là, je veux dire, on n'en reparlera pas du match de mardi. On va déjà l'avoir oublié, là, si on va être revenu au même Moses de point de départ qu'on était au début de la semaine. Tu sais, c'est qu'il faut que le Canadien arrive à jouer, là, 2-3 bons matchs de suite. Puis si au moins tu perds ce soir, mais tu sais, perds-la en prolongation, va chercher un point ou perds-la d'une façon. Parce que ce qui est plate avec le Canadien cette année, tu regardes l'affiche, 3 victoires, 8 défaites. Les 3 victoires, là, on leur enlève pas, là, c'était solide. Jake Allen a joué tout un match à un certain moment, là, contre les Sharks, tout ça, mais dans les 8 défaites, il y en a-tu au moins 6 ou 7 sur les 8, là, que, aïe, il était pas là pantoute, là? Alors, c'est ça qui fait mal, en ce moment, là, tu sais, je veux dire, quand tu perds 5-1 contre Buffalo, quand, tu sais, le match contre Anaheim, puis tout ça, alors, c'est ça qui me dérange un peu en ce moment, c'est que quand ils gagnent, mais quand ils perdent, ils perdent. Puis là, ils perdent plus souvent qu'ils gagnent. Alors, il faut qu'ils arrivent à gagner ces matchs-là, là, ce soir puis samedi. Là, c'est 2 très bons tests pour moi.
Oui, absolument. Ça n'a pas été chic. Ça n'a pas été chic dans les défaites. Tu fais bien de le mentionner. Là, je viens d'aller... j'aime ça quand... que je trouve que nos auditeurs, téléspectateurs, peu importe les gens qui nous suivent à Ongeage, je les trouve ça à coche. Salutations à Patrick Beaulac. Là, il y a Jean-Luc Pigeon qui dit oubliez pas que ça va pas si mal que ça à Buffalo, à Eichel à l'écart de l'équipe. Justin Allen casse rien à Philadelphie. En plus, ils sont sans gardien numéro 1, puis en plus, ils jouent mieux depuis qu'on a purifié l'air. Il y a quelqu'un qui a écrit, et je le recherche, j'aimerais ça lui donner le crédit, c'est Mario Lucier. Il dit, en plus, n'oubliez pas que Alex Tuck vient de la région de Buffalo. Alors, je suis allé voir, effectivement, il vient de Syracuse, État de New York. Peut-être ça l'écart un peu moins qu'on pensait de retourner de près de chez lui. Lui qui était complètement
de bord. Son frère appartient au Canadien.
Absolument.
Son frère appartient au Canadien. Alors, il va jouer contre son frère plus souvent, éventuellement, quand son frère va faire le saut dans quelques années, si évidemment il se développe comme on espère du côté du CH. Là. Alors, il ne faut pas oublier ça. Puis, tu sais, Buffalo, là, écoute, c'est pas Las Vegas. Je n'essaierai pas de faire pleurer personne, là, Mais c'est quand même mieux que c'était avant, là. Tu sais, je veux dire, c'est pour être allé quelquefois là, pour des séances de repêchage, puis d'être allé dans le coin justement dont tu parles, là, Rochester, puis tout ça, ça s'est amélioré. Je ne sais pas, je vous le dis, là, c'est pas Las Vegas. Mais pour un gars qui a grandi dans ce coin-là, puis qui vient de ce coin-là, c'est peut-être pas si. Tu sais, c'est peut-être. C'est peut-être Krebs qui trouve ça plus difficile là, de s'en aller à Buffalo là, parce que lui, c'est un Canadien de l'Ouest canadien puis tout ça. Là, mais dans le cas de Tuck, je pense pas que ça soit si dramatique que ça.
Oui. Puis dans le cas de Krebs, c'était 5 points en 2 matchs dans la Ligue américaine de hockey avant d'être rappelé. Donc, dominant même à sa première année professionnelle dans la Ligue américaine de hockey. Là, je cherche la personne parce que je veux qu'on sache que c'est pas moi qui veux mettre le trouble. Mais il y a quelqu'un qui a dit j'aimerais ça entendre Stéphane Leroux sur le retour. Ouais, c'est pas moi, je l'ai dit, je vais le trouver la personne sur le
moi, je
retour
pense qu'il s'appelle Martin Lemay. Il s'appelle Martin Lemay.
Je vais le trouver, mais il y a quelqu'un qui pose ça sur la page On Jase. Je sais qu'hier tu as eu ta manchette là-dessus à l'antichambre.
Ouais. Ouais. Mais moi l'antichambre, la manchette d'hier puis je maintiens la même chose aujourd'hui, c'est que on s'entend qu'il fallait qu'on brasse la sauce là, pour le Canadien parce que 2 victoires, 8 défaites, le voyage a été désastreux. Je trouvais que de sortir Romanov de l'alignement et d'envoyer Caulfield à Laval, c'était la solution facile. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de mettre Caulfield au balotage. Il y a 20 ans, il n'y a pas de but en 10 matchs. C'est plus simple d'envoyer Caulfield à Laval que de mettre Armia ou Toffoli dans les estrades. C'est clair. Tu peux pas faire ça, pas à ce stade-ci d'où on est rendu. Ma définition de Caulfield, puis c'est correct qu'il soit à Laval, puis c'est quoi, on va s'amuser avec le Rocket, nous on présente les matchs du Rocket, j'ai la chance de faire la description, puis ça va être le fun, puis les gens à Laval vont le voir jouer pour 17,95 au lieu de 175$ le billet, ça c'est bien correct aussi, mais le point est suivant, c'est une équipe qui ne marque pas de but en ce moment, le Canadien, et là t'envoies à Laval le gars qui a le deuxième plus de lancers au but depuis le début de la saison. On peut regarder la qualité des lancers. Je sais, Martin, on en a parlé hors des ondes, c'est correct. Mais je pense que sur le long terme, Caulfield va marquer plus de buts qu'Alex Belzile, puis Michael Pezzetta, puis tous ceux qu'on peut ramener de Laval. Ceci étant dit, c'est correct qu'il y a la Laval. Là, je veux dire, qu'il y a à reprendre sa confiance, c'est parfait. Mais je persiste à dire encore qu'il y a des gars en haut là, qu'il va falloir qu'ils en donnent plus aussi parce que là, on a tapé sur Caulfield en disant « Ben écoute, tu ne scores pas, mon jeune, on va t'envoyer à Laval, puis c'est facile de le faire. » Mais il va falloir que Toffoli il marque. Il va falloir qu'Armia il marque. Il va falloir que Lekkonen en marque de temps en temps aussi. C'est bien beau, son bon défensif, là, je veux bien, là, mais à la fin de la game, ça prend un but de plus que l'autre équipe. Puis là, ben des fois, le but de plus que l'autre équipe, tu as plus de chances de l'avoir d'un gars offensif comme Caulfield. Je suis d'accord, là, il n'a pas marqué. Je le sais qu'il n'a pas marqué. Puis il n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Mais je pense que sur le long terme, là, Caulfield va t'en donner plus à la fin. Voici mon point. Puis Romanov, ben, c'est facile aussi. Il ne joue pas bien en défensive. Jeff Petrie, il ne joue pas très bien non plus depuis le début de la saison. Je ne suis pas en train de dire d'envoyer Jeff Petrie à Laval. C'est pas ça que je dis. Là. Mais tu sais, pourquoi on voit toujours plus les erreurs des jeunes puis qu'on ne voit pas les saisons ordinaires que Jeff Petrie a à date, que Toffoli a à date. Tu sais, je t'en parlais, Martin, en dehors des zones tantôt. Toffoli, là, il est dans plein centre de l'enclave l'autre soir. Il fait une passe à Suzuki. Ça veut-tu dire qu'il n'est pas en confiance trop, ça? Parce qu'un marqueur comme Toffoli, l'an passé, quand il est dans le centre de l'enclave, il y a 10 pieds alentour de lui, il n'y a personne, il lance la puck, puis probablement qu'il marque. Et là, il a envoyé ça à Suzuki. Puis heureusement pour lui, Suzuki a lancé, puis a repris son retour au vol, puis a marqué. Mais si Suzuki ne marque pas là-dessus, qu'est-ce qu'on se dit tous? Voyons, Toffoli, t'es en plein centre de l'enclave, ton meilleur buteur, puis il lance pas au filet. Lui aussi, en ce moment, il se cherche. Je pense que les gens le voient autant que moi. Là, ça ne prend pas de maîtrise en hockey pour comprendre ça. Mais en ce moment, c'était facile. Ah, Caulfield, il y a 20 ans, on va l'envoyer à Laval, pas de trouble. Ben oui, c'est vrai. Puis c'est correct, il y a le genre joué 15, 20, 25 matchs à Laval, c'est parfait, là. Mais je pense encore que c'était une cible facile. C'était ça ma manchette hier à l'Antichamp.
Mais je pense pas, Steph, non plus qu'on va le laisser là, de vitam aeternam. Moi, je pense que si Caulfield marque rapidement puis qu'il se replace, tu sais, qu'il retrouve sa confiance puis ça touche. Lui, c'est un marqueur, fait qu'il a besoin de marquer des buts, là. Moi, je pense qu'ils vont les rappeler. Et, écoute, comme tu dis, là, tu peux pas le laisser là à 6 mois non plus.
Puis pensez à ce que j'ai dit. Ça coûte 17,95 pour aller le voir jouer, là. Ça coûte pas 150. Fait
non,
que
mais
les gens de Laval. Puis de
non, mais c'est vrai. C'est bon. Ils vont vendre des tickets à Laval. Ils vont remplir la place belle. Non, mais pour vrai, c'est une bonne observation. Hey, je disais dans tes propos aussi, t'as jasé avec Martin, là. Puis là, tu l'as effleuré, là. T'es pas un grand fan d'Armia. Ça va faire un débat aussi, parce que Martin, il aime ses moyens temps.
Ben oui, mais Armia, il fait son travail. Puis Martin, je respecte ce qu'il dit. Puis les stats avancées font qu'il fait son travail. Mais tabarnouche, t'as 3,4 millions sur un gars de quatrième trio. Puis hier, quand je suis arrivé, je refais ma référence avec l'antichambre hier, tu sais, j'avais un petit peu mon idée sur Armia, puis PJ Stark, qui était avec moi, était tout à fait d'accord. C'est que là, tu payes un gars qui joue troisième, quatrième trio, qui marque pas. Ah oui, c'est lui qui enlève la rondelle le plus souvent à l'adversaire. Bravo, c'est le fun. Mais ça prend des buts à un certain moment. Puis là, je veux bien croire qu'il enlève la rondelle plus souvent que les autres à l'adversaire. Mais ça, à la fin du match, tu regardes, c'est 5-2 pour l'autre équipe, 4-2 pour l'autre équipe. Ah, mais Armia, il a enlevé la rondelle à l'adversaire plus souvent. Ouais, puis c'est 4-2 pour l'autre équipe pareil. Tu sais, c'est ça l'affaire, là, à un certain moment. Hein. Vas-y, Martin.
Martin? Non, mais c'est un des défauts qu'on a, Stéphane puis moi, parce que quand on s'appelle avant le show pour parler des sujets, parce que Yannick aime bien avoir les sujets d'avance.
On fait le show avant.
Steph puis moi, on fait un peu le show avant. Puis, tu sais, on se disait avant le show, les gens pensent qu'on se pogne, mais c'est de même à l'extérieur des zones. On n'est juste pas d'accord. Tu peux pas juste mettre dans ton équipe 12 marqueurs de 30 buts puis penser que tu vas gagner parce qu'il n'y en a pas un maudit qui va aller chercher la rondelle. Anthony Manta, c'était un marqueur de buts. Ken Allen, il reprochait autant comme autant qu'il n'allait pas récupérer rondelle puis qu'il attendait que tout le monde fasse tout pour lui. Cole Caulfield, c'est une bonne affaire qu'il aille à Laval parce que Cole Caulfield, non seulement ne marquait pas, ne récupérait pas de rondelles, ne mettait pas de pression, ne jouait pas à des avantages numériques, il n'avait pas de chaise. Et pour son bien à lui, pas pour le bien du Canadien, pour son bien à lui, c'était important qu'il retourne à Laval, retrouver confiance, retrouver sa game, parce que présentement, il ne devait pas être heureux, le petit garçon, à Montréal. Pour ce qui est de Yoel Armia, on en a parlé, Steph, tantôt. C'est drôle parce que Carey LeBarre était lundi là avec ses statistiques avancées. Armia, il est premier. Il n'est pas bon. Il est premier dans toutes les catégories de reprise de rondelle en zone offensive, soutirer la rondelle, revirement provoqué, tir dans le bas de l'enclave. Je suis d'accord, ça prend des buts.
Mais c'était dans un match.
Mais ce prix-là pour qu'il fasse sa job. Puis c'est parce que des gars... Non, c'était pas juste dans un... Ouais. Non, écoute, ça fait 3-4 matchs que c'était le trio d'Armia, le meilleur trio, là, même...
Non, mais le tableau...
Juste à voir.
Le tableau de Carrel, lundi, ouais, mais... c'était dans le match contre les Ducks.
Fait que ça prend des joueurs qui vont compléter des joueurs de talent qui peuvent la mettre dedans, tu sais. Puis pourquoi on n'a pas fessé sur Toffoli? Mais parce que Toffoli a déjà marqué plus que 30 buts dans la Ligue. Fait qu'on se dit, il va leur faire. Mais dans le cas de Caulfield, tu peux pas dire, ben il y en a déjà marqué 30, fait qu'on va le laisser là, il va souffrir, puis il va finir par en marquer 30. C'est faut que tu l'envoies plus bas, domine dans ce niveau-là, progresse, apprends, puis là, on va te ramener. C'est pas un désaveu, c'est pas on t'aime pas, c'est juste l'apprentissage normal que les autres ont passé, là, les Toffoli, là, et des mauvais moments, il y en a eu quand il était plus jeune, il a été laissé de côté, il a sûrement été retourné dans les ligues américaines. Max Pacioretty, je l'ai parlé avec Jacques Martin cette semaine, deux fois qu'il a été rappelé. La première fois qu'il avait été envoyé, c'est Marc Denis qui en a parlé sur les ondes ici. Il avait dit, il était retourné à Laval en disant, moi, je ne vois pas ce que je m'en vais faire à Laval. À Hamilton, j'ai rien à apprendre.
Hamilton.
Puis il a fallu qu'il se fasse mettre sa quatrième ligne par, puis se faire crier après. Je pense que c'est Ron Wilson qui était là, l'entraîneur, ou ouais, un Wilson, ouais. Je ne me souviens plus c'était lequel.
Ouais, salut.
Qui était là à crier après lui, puis qu'il a même dit d'aller dans la chambre avec sa suce, tellement qu'il était... Fait que, tu sais, des fois, là, il y a de l'apprentissage à prendre. Fait que de comparer ou pas de comparer, t'as pas comparé Toffoli puis Caulfield, mais c'est deux choses complètement différentes, tu sais. Mais on peut pas mettre 12 marqueurs de 30 buts puis penser qu'on va gagner parce que c'est des marqueurs de buts. Hein.
Non, je sais, mais ce que je te dis, c'est que dans ce que Toffoli a à apporter, en ce moment, il livre pas marchandises. Tu sais, on peut-tu au moins s'entendre là-dessus? Là?
Absolument, il a connu son meilleur match mardi.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça mon point. T'sais, parmi tous ceux qui ne livrent pas à marchandises, ben, le plus facile à identifier, c'était Caulfield parce qu'il est jeune et on peut l'envoyer à Laval. C'est juste à ça mon point. Là. T'sais, dans tous ceux qui ne livrent pas à marchandises, dans ce qu'ils sont censés faire. Puis oui, tu as déjà marqué 30 buts, fait qu'à cause de ça, tu as le bénéfice du doute, c'est correct. Sauf qu'à un certain moment, y a notre chum Jacques Demers qui avait déjà dit ils sont payés pour la mettre dedans. Là. Alors, il faut qu'il la mette dedans. Là. C'est ça, là.
Tout à fait, tout à fait. Martin, je vais te laisser saluer les gens de la télé parce qu'on va poursuivre sur le web là, avec Stéphane dans les prochaines secondes.
Oh que oui, on va poursuivre parce qu'il nous en reste encore pas mal des sujets. Entre autres, Stéphane Leroux a eu une entrevue prémonitoire, si je peux me permettre, dimanche. Donc, on va parler de ça également, d'autres sujets avec Stéphane Leroux. Le temps de dire bonjour à vos mères. Stéphane, un beau bonjour à ta mère aussi, c'est important. Salutations à Mille. On poursuit de l'autre côté. Ah oui, c'est important, Stéphane. On dit un beau bonjour à ta maman.
Qui a besoin de toute l'énergie positive en ce moment. Donc, on y fait un gros câlin à ta maman.
Moments difficiles. Merci.
Oui, des moments difficiles. Allons-y avec le Rocket. Ça, je disais tantôt, dimanche, tu as fait une entrevue prémonitoire avec Michael Pezzetta.
Pour expliquer aux gens un petit peu, moi, j'ai ma balado-diffusion tous les lundis qui s'appelle « Sur la glace ». Puis à chaque semaine, bien, j'essaie d'avoir deux, trois entrevues. J'essaie toujours d'avoir une entrevue avec un joueur ou un dirigeant du Rocket. Mais là, en fin de semaine, le Rocket était en congé dimanche. Puis lundi matin, on était sur la glace, on ne pouvait pas faire d'entrevue. Fait que finalement, je vais vous sauver des détails, mais le Rocket me dit « Écoute, on pourrait peut-être t'avoir Michael Pezzetta en entrevue pour dimanche après-midi. » Fait que moi, je dis « Bien, parfait, il y a un bon début de saison en plus. » Fait qu'on va jaser avec Michael Pezzetta. Fait que dimanche, pendant la pluie battante dehors, je m'installe sur mon ordinateur pour faire une entrevue Zoom avec Michael Pezzetta. Puis là, on jase un petit peu. On fait l'entrevue officielle qui a passé là, dans le podcast, mais on a aussi jasé un petit peu de tout et de rien. Puis à un certain moment, tu sais, je disais... Écoute, Michael, ton nom de plus en plus sort pour être rappelé. Puis, ah, ben, écoute, je vais être prêt si je suis rappelé, puis tout ça. Puis, on s'entend, c'est un choix de sixième ronde. Puis, tu sais, Michael Pezzetta, t'es arrivé à Laval, il n'y avait pas vraiment un gros nom, puis tout ça. Puis, si on avait fait un pool, nous tous ensemble, en début de saison, pour dire c'est qui le premier joueur qui va être rappelé, mettons, avant le camp d'entraînement du Canadien, là, qui le premier joueur de Laval qui va être rappelé, je ne pense pas que grand monde aurait choisi Pezzetta. Puis, là, finalement, à la blague, tu sais, je disais, ben, écoute, peut-être que tu vas être rappelé ce soir, demain, tu ne sais pas, tu sais, il y a des blessés, puis. Écoute, comme de fait, c'est arrivé. Alors, j'ai bien hâte de recroiser Pezzetta pour lui dire que, regarde, la prochaine fois que Stéphane Leroux va te demander une entrevue, dis oui, parce que peut-être que tu vas être rappelé. Puis, je fais une parenthèse aussi. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, Martin, finalement, sur les médias sociaux aussi, là, mais samedi, c'était le party d'Halloween des joueurs
j'ai
du Rocket.
Ça.
Puis, Caden Primo était déguisé
j'ai
en Michael
ça,
Pezzetta.
Ouais.
Il y avait une perruque avec le chandail numéro 23.
Ah ouais, j'ai vu ça.
Tu sais, c'est un gars qu'on aime bien à Laval. C'est un gars qu'on aime bien à Laval, Michael Pezzetta. Puis, en tout cas, il a eu son baptême, c'est bien correct. Puis, écoute, la crinière au vent pendant la période d'échauffement, mardi soir, c'était de toute beauté. Je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui était dans les estrades au Centre Bell qui ont dû dire « Qu'est-ce que c'est ça, ce bébite-là? » Parce qu'on ne l'avait peut-être jamais vu si on ne suit pas les matchs du Rocket. Mais tant mieux, il a amené de l'énergie, puis tout ça. Ceci étant dit, ça reste un gars, tu sais, je pense aux capacités quand même limitées là, pour la Ligue nationale, mais... Il s'est rendu. Il en a joué une de plus que Martin Lemay, que Stéphane Leroux et que Yannick Lévesque dans la Ligue nationale à venir jusqu'à là.
Ouais, tout à fait. Oh, oui, puis moi aussi, je l'aime bien, Pezzetta. Oui, nous trois ensemble, puis je l'aime bien. Puis j'ai vu la photo de Primo sur les médias sociaux. C'était de toute beauté. C'était à s'y méprendre. C'était vraiment cool.
Ouais,
hey, Steph, on glisse un petit mot sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a un petit quelque chose là, qui semble t'inquiéter, puis ben, qui semble inquiéter pas mal de gens. C'est au niveau des foules, des assistances. Comment ça se passe? J'imagine que les marchés, ça va mieux que d'autres.
Oui, bien écoute, la question qu'on posait tout le temps l'an dernier, à ce moment-ci, quand on faisait des entrevues avec les dirigeants d'équipe ou avec Gilles Courteau, c'était « OK, ça fait un an et demi là, que c'est tout croche, le hockey junior, il y a des bulles, il n'y a pas de spectateurs, puis tout ça, est-ce que vous êtes confiant que ça va revenir? » Là, on compare les chiffres de cette année, pas avec l'an passé, parce que il n'y avait pas de spectateurs, mais avec il y a deux ans. Donc, octobre 2019, en fait, septembre-octobre 2019 et cette année, et après 109 matchs à la fin du mois d'octobre, tu regardes les marchés, là, le même nombre de matchs à Québec, à Halifax, à Moncton qu'il y a deux ans, grosso modo, là, il y a une baisse de 22 % au niveau des assistances. Alors, c'est certain qu'en ce moment, c'est pas encore la panique, mais c'est des revenus de moins. Là. Tu sais, tu regardes, il y a certains endroits, tu sais, que je regardais Québec notamment, ils ont des bonnes foules, mais en moyenne, ils ont 2000 spectateurs de moins par match qu'il y a deux ans. Ils ont une bonne équipe, Québec, ils vont monter, tu sais, mais il y a d'autres endroits que, tu sais, les baisses sont quand même, je vais employer le mot, là, un peu dérangeantes. Tu sais, quand tu attires en moyenne 2200 spectateurs par match, puis que là, tu te retrouves à 1600, 1700, bien, le 500 spectateurs de moins par match, fois 15 $ fois le nombre de matchs, ça commence à faire de l'argent. Là, alors, j'espère qu'on va être en mesure de rattraper au fur et à mesure le temps. J'écoutais Gilles Courteau l'autre soir sur nos ondes à Hockey 360 qui disait qu'il était confiant là, que ça revienne tranquillement. La seule équipe en ce moment qui est en hausse de spectateurs par rapport à deux ans, et puis c'est bien compréhensible, c'est les Olympiques de Gatineau parce qu'il y a un aréna flambant neuf. Alors, les gens, ils ont une curiosité d'aller voir. C'est la seule des 18 équipes en ce moment qu'il y a plus de spectateurs après le même nombre de matchs qu'il y a deux ans. Il y en a que c'est pas une grosse différence. Oh, il y en a qui souffrent plus. C'est sûr qu'il y en a qui souffrent plus. Puis écoute, je vais te prendre ma feuille ici, elle est pas loin justement, puis juste pour être sûr de ne pas induire personne en erreur, là, parce que j'ai tout fait cet exercice-là. Puis par match, tu regardes, à Québec, on a perdu 1900 spectateurs par match. T'sais. À Halifax, Moncton, 1500 spectateurs, 1100 spectateurs. Tu beaucoup. Regardes une place comme Victoriaville en ce moment, là, c'est 430 spectateurs de moins par match en moyenne. T'sais. Alors, 430 spectateurs de moins par match, c'est beaucoup. Là. Mettez-les, comme je vous dis, là, à 15 $ le billet. Là, tu as des endroits là, comme Val-d'Or qui avait déjà pas les grosses foules, 460 spectateurs de moins par match. Baie-Comeau, 450 spectateurs de moins par match. T'sais, ça fait mal. Là. J'espère que ça va se passer. Si tu regardes Baie-Comeau depuis le début de la... T'sais, c'est une moyenne de 1100 spectateurs par match. C'est pas...
Est-ce que tu penses que c'est les gens qui ne sont pas revenus à la vie normale de la COVID ou tu penses que... Puis là, c'est généralisé, là. Tout le monde, on fait face à un divertissement. Les gens peuvent... tu sais, c'est pas rare, je le dis souvent, les gens... je suis sur des groupes avec des amis, puis là, ils m'ont amené, le Canadien joue pas une bonne première période, puis là, j'entends mon texto qui sonne, puis bon, ben that's it pour moi, je m'en vais écouter une série avec ma blonde. That's it pour moi, je m'en vais jouer en ligne. Est-ce que tu penses que c'est la COVID qui est pas revenue ou les gens, pendant la COVID, se sont trouvés d'autres centres d'activité, d'autres intérêts?
D'autres intérêts, puis aussi, tu sais, il y en a qui, faut être honnête, ont eu des difficultés financières aussi. Alors, tu sais, ton billet de saison que tu achetais avant, ben tu dis, hey, on va peut-être y aller juste 7-8 fois cette année au lieu d'aller aux 34 matchs. Puis, alors, il y a plusieurs, tu sais, c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais, tu sais, le hockey junior doit se battre avec toutes les autres activités que tu as, que tu peux faire, tu sais, puis... Moi, je pense qu'effectivement, on a découvert plein d'autres choses. Tu sais, moi, les gens ne le savent pas, là, pis tout ça, mais tu sais, je suis un amateur de cinéma. J'aime beaucoup ça, aller voir un film. Moi, ça me dérange pas, là, en plein après-midi, l'été, là, il fait 30 degrés dehors, d'aller m'enfermer 2 heures dans une salle de cinéma pour aller voir un film que j'ai envie de voir. Mais regarde, on y va plus au cinéma. Tu sais, je pense que je suis allé une fois dans la dernière année ou à peu près, tu sais, alors... Si moi, je change une activité que j'aimais beaucoup puis je la fais plus, ben les gens qui aimaient beaucoup aller au hockey junior, peut-être qu'ils font d'autres choses aussi maintenant. On a découvert autre chose exact. À faire, tu sais. Alors, c'est j'espère que ça va revenir. Là, parce que quand on fait le total après 109 matchs, il y a 2 ans, c'était la moyenne de la Ligue, c'était 3100 spectateurs par match. Tu sais, ça inclut là, les gros marchés. Puis là, en ce moment, la moyenne est 2400 par match. Alors, on a perdu en moyenne 608 spectateurs par match si on compare mois pour mois. Là. Je vais en reparler demain à Hockey 360, au 5 à 7 avec des tableaux. Puis tout ça, là, mais je suis pas encore inquiet, là, mais j'espère que les choses vont se replacer lentement, mais sûrement.
Nos habitudes de vie à tous ont changé, puis ça vient un peu bousculer. Stéphane, habituellement, quand on termine comme ça l'émission, je remercie l'invité, puis on procède pour la fin. Mais là, on va faire ça différent aujourd'hui, parce que là, depuis que tu es venu me remplacer il y a 2 semaines, à tous les jours, je me fais reprocher de ne pas être à la hauteur de Stéphane Leroux pour les 3 étoiles. Et j'ai même vu des gens commenter aujourd'hui, dire « Hey, Steph Leroux est là, parfait, ils vont faire les étoiles. » Alors, Stéphane, je prends congé pour les 3 étoiles et je te laisse aller, compte tenu que tu es là. Puis je sais que tu vas me remplacer dans les prochaines semaines aussi. Donc, mais je vous laisse aller. Allez-y avec les 3 étoiles, je reviendrai pour le mot de la fin. Vas-y, moi, j'ai hâte d'entendre ça.
Bon, ben là, est-ce qu'il y a un Steph tableau? OK, on y va. OK.
Vas-y.
La 3e étoile, The Third Star de Facebook On Jase, Sébastien Tardif. Ouais, ouais. La 2e étoile, The Second Star de Facebook RDS, Michel Vaudry. Ouais. Martin, vas-y avec la première.
Mais non, c'est ta voix, vas-y.
Et la 1e étoile, The First Star de RDS.ca, Sylvain Masson.
Dire de quoi. Là, je comprends. Je suis pas à la hauteur. Hey, j'ai essayé. Je me suis fait traiter de bonhomme carnaval avec la voix modifiée. Ça n'a pas marché. Mais Steph, il est vraiment à coche.
Ouais, t'avais-tu vu ça?
Ben, je le disais à Martin quand tu n'étais pas là. Non, mais je disais, maintenant, je n'ai pas entendu, mais je disais à Martin quand tu n'étais pas là, Yannick, Moi, quand j'avais 13-14 ans, puis je rêvais d'être Richard Morancier au Stade olympique, là, d'annoncer l'alignement partant des Expos là, pendant un match pendant la course au championnat en 1980-81, mais c'est jamais arrivé.
Hey, c'est jamais arrivé, ça serait-tu pas une belle retraite, ça?
Ouais.
Ah, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi
plan
pas?
De retraite pour Steph Angle,
merci.
Moi, je veux être brigadier, puis Steph Leroux veut être annonceur maison au stade.
Brigadier.
Quand les expos vont venir. Quand les expos vont venir.
Ouais. Ah ouais. Brigadier ça. Devant le stade, faire le trafic, puis Steph va annoncer, puis moi, ben, j'ai revendu du popcorn. Chips, peanut, cracker jack. Hey Steph, un gros merci. C'était ouais. bien le fun encore une fois aujourd'hui.
Merci Steph. Les boys. Salut, bonne journée. Bon match ce soir.
Bye.
Bye. Salut, bye-bye. Un gros merci à Stéphane Leroux, notre annonceur maison maintenant. Merci beaucoup également à François Gagnon pour sa participation. Catherine Côté à la réalisation, mise en onde de l'émission. Notre ami, c'est Alexandre qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. Donc, merci beaucoup à Alex. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous, les jaseux, d'avoir été avec nous. Demain, Gilbert Delorme et David Perron seront de l'émission.
Yes, un gros merci, tu l'as dit, à toute notre équipe, mais un gros merci à nos jaseux et à nos mères. On se rejase demain. Bon match, tout le monde, c'est à RDS.